7 heures. Le journal de 7 heures. Linda Christelle Ballier.
Bonjour à tous. En titre de ces 7 heures, 36 milliards de francs CFA, c'est le budget du ministère d'État, ministère de la fonction publique adopté à l'unanimité par les députés membres de la commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Et puis l'administratrice des petites entreprises des États-Unis, Isabelle Guzman, a séjourné en terre ivoirienne du 7 au 8 novembre dernier. Au menu de sa visite, expliquait la politique entrepreneuriale des États-Unis en faveur de la Côte d'Ivoire. Et puis à Madagascar, la présidente de l'Assemblée nationale a demandé hier jeudi la suspension du processus électoral à moins de 7 jours du premier tour de la présidentielle. L'objectif, permettre un vrai dialogue et rechercher une solution acceptée de tous. Et puis la revue des titres des journaux parue ce vendredi sera l'affaire de Francis Cassé que nous retrouverons avant la fin de cette édition. Et en ce qui concerne l'invité de la rédaction, et ce jour, il s'agit de Yannick Niamke, le chargé d'études au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, qui avec Daniel Yesso échangera sur le compendium des seniors créé récemment. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition avec les activités du Parlement ivoirien. Le projet de budget du ministère d'État, ministère de la fonction publique, qui est de 36 milliards de francs CFA, a été adopté à l'unanimité des députés membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. C'était le mercredi 8 novembre dernier à l'hémicycle. Les députés n'ont pas manqué de féliciter la ministre Anne Ouloto pour le travail qu'elle a bas au niveau de son département ministériel. Écoutons la ministre Anne Ouloto.
Je voudrais très sincèrement remercier le président de la commission des affaires économiques et financières et l'ensemble des membres de cette commission pour la qualité des échanges que nous avons eus. Je suis particulièrement heureuse parce que ces échanges m'ont donné l'occasion de partager avec eux la vision du gouvernement en matière de gestion de cette fonction publique ainsi que de la modernisation de notre administration. Nous avons également parcouru l'ensemble de nos difficultés dans le cadre de la gestion des ressources humaines de l'État. Nous avons partagé également nos difficultés au niveau de la gouvernance et des défis. Nous avons parlé des défis que nous avons à relever. Je suis particulièrement heureuse parce que j'ai vu dans la qualité des échanges que nous avons eus comment nos députés sont sensibles aux actions qui sont menées chaque jour. Combien nos députés sont sensibles aux préoccupations de nos populations. Mais je voudrais également saluer le bon accueil qui a été fait des mesures prises par le gouvernement, des réformes en cours et de nos ambitions à améliorer le cadre de vie, le cadre de travail des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, à faire en sorte que nous ayons une administration publique moderne et performante. Je ne suis donc pas surprise que les députés de cette commission aient à l'unanimité choisi d'accompagner le gouvernement dans son ambition. Et je suis fier de notre Assemblée nationale.
À l'instant, la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto. Dans la même veine, à Yamoussoukro, cette fois le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, a adopté son projet d'orientation relatif à la jeunesse en session plénière où il dressait un bilan partiel du programme jeune du gouvernement devant les sénateurs. Mamadou Koulibaly a fait savoir que plus d'un millier de jeunes filles et garçons bénéficient à ce jour de ce programme qui s'étend sur 3 ans, à savoir de 2023 à 2025. Le ministre Mamadou Touré.
Pour cette année, vous avez déjà près de 309 000 jeunes qui ont été impactés dans les programmes de formation, d'insertion professionnelle, d'emploi, de stage et autres. Vous avez un peu plus de 421 000 jeunes qui ont pu accéder au programme de permis de conduire. Vous avez 111 000 jeunes qui ont bénéficié donc de bourses et de secours financiers, que ce soit en Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire. Près de 4 millions de jeunes sensibilisés contre certains fléaux, l'alcoolisme, la drogue, etc. L'agora d'Abobo qui a été livrée. l'Agora de Guiglo, de Touba, de Dimokro en cours de construction, le centre de service civique de Boaké qui a été construit et achevé, celui de Daloa, d'Adzopé et de Korogo en cours de construction, les piscines olympiques de Benjéville totalement innovées, d'autres piscines olympiques en cours de construction. D'ailleurs, pendant ce mois de novembre, nous allons faire un bilan public sur toutes ces initiatives, mais surtout en mettant en évidence ces jeunes qui ont été bénéficiaires. Donc l'année 2023 est certes l'année de la jeunesse, mais le programme qui a été adopté par le gouvernement au mois de mars est sur 3 ans, 2023-2025. Donc cette année, c'est l'année de l'amorce, mais avec déjà des résultats probants obtenus. Nous passons en vitesse supérieure dès l'année prochaine. Et je voulais profiter de cette tribune pour dire aux jeunes, ceux qui sont encore en attente de perspective, que le programme jeunes du gouvernement, c'est 2023-2025, avec pour objectif d'impacter 1 500 000 jeunes à l'horizon 2025.
Vous écoutiez Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, au micro de notre correspondant sur place, Émile Yao. Et puis la jeunesse est l'une des priorités également de la Fondation politique allemande Friedrich Naumann, qui compte accentuer ses actions autour de 6 nouveaux objectifs spécifiques que sont notamment la sécurité, la migration, le genre, le développement durable et le changement climatique. C'est ce qu'a fait savoir sa directrice Afrique de l'Ouest et représentante pays Côte d'Ivoire lors de la conférence de presse qu'elle a tenue le 7 novembre dernier dans la commune de Cocody, suivant le compte-rendu de cette activité avec Jean-Claude Mabéa.
Après avoir salué leur bonne collaboration avec la Fondation Bakary Diaby de la CADA, la Coordination africaine des droits de l'homme et des armées a mis l'accent sur les défis à relever, non sans faire des suggestions.
Les élections de 2025 pour nous constituent un défi majeur en ce qui concerne la sécurisation du processus électoral, mais aussi la formation des hommes pour la sécurisation de ce processus, pour la stabilité, pour la lutte contre le terrorisme et également pour la promotion du genre au sein des forces armées. Et nous espérons être accompagnés par vous.
Yapi Léonce Adam, le directeur chargé d'études et perspectives au CNDHCI, en a fait de même.
Aujourd'hui, quand vous discutez avec les hommes politiques, tout le monde se prépare pour 2025. Or, le malheur en Côte d'Ivoire, c'est qu'on utilise les jeunes comme bras armés. Et donc, pour nous, il est nécessaire que, à partir de 2024, que la formation soit accentuée sur la jeunesse.
Et la directrice Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Naumann, qui dit s'inscrire dans la continuité de ses prédécesseurs, a tenu à rassurer les partenaires nationaux en ces termes. Alexandra Elte.
À mon avis, une des clés pour rendre la région plus sûre, c'est justement d'adresser le problème de la jeunesse, du manque d'éducation, du manque de perspective, une des clés délaissées jusqu'à présent.
Installée en Côte d'Ivoire depuis 1989, la Fondation Friedrich Naumann travaille sur les principaux thèmes que sont la politique, les droits de l'homme et l'économie en Côte d'Ivoire.
Vie des partis politiques avec le PPACI, le Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, qui depuis le 23 octobre dernier, on assiste à une valse à la tête du parti de Laurent Gbagbo, justement. Et selon Tchéidé Jean-Gervais, nouveau secrétaire général de ce parti, ces chamboulements répondent à un souci de rotation des cadres de ce parti. Et pour mener l'ultime bataille, celle de réunir les conditions d'une élection juste et transparente en Côte d'Ivoire, écoutons-le à cet effet.
Il faut déjà savoir que un grand parti politique comme le nôtre procède de temps en temps à ce qu'il est convenu d'appeler la rotation des élites. Et donc, c'est un événement tout à fait ordinaire.
Qu'est-ce qu'on peut répondre à ceux qui pensent que c'est à la suite de la débâcle à l'élection régionale et municipale que le président a dû régler des comptes?
Je vais vous dire, le président Gbagbo était encore à Bruxelles lorsque son parti en Côte d'Ivoire a remporté 18 sièges à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il rentre en Côte d'Ivoire et donc normalement, on devrait gagner encore plus. Donc, si nous avons les résultats catastrophiques que vous voyez, ce n'est pas parce que les hommes qu'il a placés sont pas bons, ce n'est pas parce que le système qu'il a mis en place n'est pas bon. La raison principale, et chacun peut le constater, c'est la fraude massive qui a été organisée pour faire croire que le président Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire et que son parti ne représentait rien sur le terrain. Donc, nous sommes des démocrates. Nous disons la vie politique ne s'arrête pas à une élection. À quelque chose, malheur étant toujours bon, l'adversaire a montré sa capacité à tricher sous toutes ses formes. Donc aujourd'hui, il s'agit pour nous, ayant vu ce qui s'est passé, de mieux nous organiser encore et de prendre les mesures qu'il faut pour mener la mer des batailles, c'est-à-dire la bataille pour des conditions d'élection justes et transparentes. C'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin.
Le nouveau secrétaire général du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, Jean-Gervais Tchéidé, qui a été joint par Constant Maïlé. Renforcer les relations bilatérales entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire au travers de l'entrepreneuriat, c'est l'objet qui motive la visite en Côte d'Ivoire de l'administratrice des petites entreprises des États-Unis, Isabelle Guzman. Mandatée par le président américain Joe Biden, elle a effectué mercredi 8 novembre une série de visites pour réitérer l'engagement du gouvernement américain en faveur du développement entrepreneurial en Côte d'Ivoire, compte rendu Melamani.
C'est à Digifarm, Sisako Koudiatoban, à 10h30, que s'est ouverte la série de visites et de séances de travail de l'administratrice des petites entreprises des États-Unis, Isabelle Guzman. Accompagnée de l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Bah, Isabelle Guzman a rencontré des bénéficiaires des formations issues des différentes composantes de cette structure qui œuvre au développement de l'esprit entrepreneurial chez les femmes. 15h, commune du Plateau. Au programme, des séances de travail avec successivement le ministre du Commerce et de l'Industrie, celui de l'Agriculture et du Développement Rural, et enfin, avec le Premier ministre, chef du gouvernement. Une opportunité pour l'État ivoirien de penser à l'avenir des petites et moyennes entreprises. Robert Begré-Mambé.
La chance que nous avons de vous rencontrer aujourd'hui, c'est d'envisager un développement de la coopération qui va nous permettre de donner toute la place qui revient au secteur privé à travers les petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire.
Également, Isabelle Guzman a pu, au terme de cette journée, s'imprégner des réalités entrepreneuriales de la Côte d'Ivoire.
J'ai découvert un environnement entrepreneurial remarquable. Le président Joe Biden avait exprimé sa volonté de voir le renforcement des liens de coopération entre les États-Unis et les États de l'Afrique de l'Ouest. Cela passe par des actions telles que l'innovation technologique et le développement des entreprises dirigées par les femmes et les jeunes qui susciteront la richesse et le développement de nos pays.
Notons que la visite d'Isabelle Guzman est la première d'un administrateur des petites entreprises des États-Unis en Afrique de l'Ouest.
Merci à vous, Mel, Emmanuel et d'Abidjan. Rendons-nous à Divo et parlons de sécurité routière à l'occasion de la journée médiatique de la semaine de la sécurité routière tenue le mercredi 8 novembre dernier. L'association des auto-écoles du Lodjibois a appelé l'État à imposer le permis de conduire aux conducteurs de tricycles majoritairement composés de mineurs. Ils provoquent ces accidents par méconnaissance du code de la route. On ligne donc de Divo pour un compte rendu Abel César Cassin.
Au cours de cette 10e sensibilisation qui s'est déroulée à l'immense carrefour de la préfecture de Divo, dont les feux de signalisation ne fonctionnent plus, le contrôle est porté sur le port du casque, de la ceinture de sécurité sur tout le transport de passagers en surnombre. Suivant la mise en garde du secrétaire général de préfecture de Divo, Gueye Afoué-Jeannette, à un transporteur.
Vous n'êtes pas en règle, vous êtes en surnombre. Et puis il y a le camion, mais on cherche à vous mettre en rang. Il faut le verbaliser.
Le directeur départemental des transports de Divo, Jean-Yves Messé, ne se montre pas découragé.
Avec les 14 105 personnes sensibilisées à ce jour, on devrait avoir un impact vraiment grand sur la population. Mais c'est lent. Et c'est lent parce que les disciplines, les civismes sont très enracinés. Il faudrait que ça va prendre un élan dans l'avenir, mais ça ne me décourage pas.
La gérante de l'association des auto-écoles du Lodjibois, Bernadette Kongoza, fait une observation de taille sur les conducteurs des tricycles.
Il y a beaucoup de mineurs qui sont sur les tricycles. Ils n'ont pas de permis de conduire. La conséquence est que les accidents sont dramatiques. Les accidents sont mortels sur les tricycles. Vraiment que l'État nous aide à ce que vous conduisez un tricycle, les gens aient le permis de conduire.
À noter que la direction départementale des transports de Divo ne dispose pas de véhicules pour étendre la sensibilisation à toutes les localités de Lodjibois sous sa compétence. De Divo, Abel César Cassin, Radio de la Paix.
Dans l'actualité internationale à Madagascar, la présidente de l'Assemblée nationale a demandé ce jeudi la suspension du processus électoral à moins de 7 jours du premier tour de la présidentielle. Une déclaration faite en concertation avec le Conseil œcuménique des églises chrétiennes à l'issue d'une médiation de plusieurs jours qui intervient après une semaine de fortes tensions et de violences à l'endroit des manifestants de l'opposition. L'objectif est donc de permettre un vrai dialogue et rechercher une solution adaptée pour tous. Et puis retour dans ce studio pour retrouver Francis Cassi qui s'est chargé aujourd'hui de parcourir pour vous les unes de vos quotidiens parus ce vendredi. C'est dans la revue des titres. Bonjour Francis.
Bonjour Linda, bonjour à tous. Élection annoncée à la présidence du PDCI-RDA. Réorganisation du PPACI et l'élection présidentielle de 2025 avec le RHDP. Voilà les différents centres d'intérêt ces jours-ci de ces trois grands partis ivoiriens à en croire la une de vos journaux de ce vendredi. Côté PDCI-RDA, par rapport à l'élection annoncée à sa présidence le 7 décembre prochain, le Nouveau Réveil rapporte les propos de Bredoumi Soumaïla, son porte-parole, récemment chez le confrère NCI. Candidature pour la présidence du parti, le comité électoral est suffisamment outillé. Dans ce même sens, le Bélier aussi, citant un autre cadre du PDCI, écrit péremptoire. Nyamia Yao tranche. Seul le Congrès peut valider une candidature. Mais quoique n'étant pas concerné par cette élection au PDCI, le RHDP et le PPACI pourraient quand même y gagner ou perdre, selon l'Inter, qui a cet effet titre. Congrès extraordinaire du PDCI. De gros enjeux pour Ouattara et Gbagbo. Avant que le matin, lui, n'annonce que le président par intérim du PDCI-RDA aurait quelques ennuis en amont de cette élection. Avant le congrès du 16 décembre, des cadres du PDCI traduisent au copie en justice. Avec d'autres journaux, on apprend que le PPACI se réorganise, notamment la voix originale titrant « Redynamisation du parti de Gbagbo ». Ça bouge très fort au PPACI. Ce sur quoi renchérir le temps avec cette manchette. Implantation, congrès, ligue des jeunes et des femmes, des missions envoyées sur le terrain. Au RHDP, on pense déjà à l'élection présidentielle de 2025, d'après le Patriote indiquant ceci. Séminaire bilan des 17, 18 et 19 novembre en vue de la présidentielle 2025. RHDP, c'est faute à ne pas répéter. Quand, à cet effet, le rassemblement suscitant la curiosité des lecteurs note. Présidentiel 2025, voici le seul homme qui peut bloquer Ouattara. Vos médias aussi parlent de coopération internationale ce vendredi. Notamment Fraternité Matin qui écrit « Sommet Arabie Saoudite-Afrique, le chef de l'État prend part aux travaux ». Ce que corrobore l'avenir avec « Premier sommet Arabie Saoudite-Afrique, Alassane Ouattara parle au monde depuis Riyad ». Vos tabloïdes de ce jour nous amène également à nous intéresser à l'ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale ivoirienne en exil. C'est le cas de Le Sursaut qui dit « Politique nationale, un média français révèle pourquoi Ouattara refuse de pardonner à Guillaume Soro. » Pour sa part, au sujet de l'affaire tentative d'arrestation programmée de l'ex-président du Parlement ivoirien, Soir Info cite un proche de Guillaume Soro en ces termes. « Il fallait de fausses pistes. » Et puis, terminons notre revue des titres des quotidiens de ce 10 novembre avec ce dossier de Fraternité Matin intitulé « Administration, supermarché, parking, ce pourboire réclamé avec pression ». Merci et bonne lecture de vos journaux.
Merci également à vous, Francis Cassi, pour cette revue des titres dans l'édition de 8 heures. Vous serez de retour pour le même exercice. L'invité de la rédaction pour terminer cette édition et ce jour, il s'agit du chargé d'études au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, Yannick Niamke. Pour lui, les jeunes en matière professionnelle doivent bénéficier de l'expérience et l'expertise des seniors issus du secteur public ou du secteur privé. Il explique qu'à cet effet, un compendium vient d'être créé pour la valorisation de ces personnes âgées et retraitées. Niamke, Yannick répond aux questions de Daniel Yesso.
Bonjour Monsieur Yannick Niamke, dites-nous alors c'est quoi exactement le compendium des compétences des seniors?
Le compendium des compétences des seniors de Côte d'Ivoire est une plateforme numérique qui a été mise en place par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, dont l'une des missions est d'œuvrer à la promotion de l'emploi des couples vulnérables. Des actions et des activités sont menées pour le renforcement de l'employabilité des demandeurs d'emploi et la valorisation des expertises nationales. C'est dans ce cadre-là que le compendium des compétences des seniors du Côte d'Ivoire a été mis en place pour permettre la valorisation de nos seniors, de nos agents du privé, du public, de la diaspora, qui ont fait valoir leur droit à la retraite, qui ont une expérience riche, ils ont pu enregistrer pendant toute leur durée d'exercice, en exercice au niveau du privé comme du public. Donc c'est cette somme d'expérience qu'ils ont pu avoir qui aujourd'hui peut être mise à en lumière par des formations, par des consultances à travers des entreprises ou des groupes d'associations. Voilà un peu l'esprit du compendium.
Alors que tout le monde s'intéresse aux jeunes, on dit c'est l'année de la jeunesse, vous vous intéressez aux seniors. Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier à apporter?
Donc, comme je le disais, le compendium a été mis en place pour rendre visibles les compétences des seniors vivant en Côte d'Ivoire et ceux de la diaspora, afin de rehausser leur participation à la vie socio-économique. Les nouveaux embauchés sont aidés dans leur activité par les seniors qui ont déjà une riche expérience en la matière.
Les personnes qui seront donc dans ce compendium, est-ce qu'elles vont effectuer les mêmes tâches que les jeunes sur le terrain ou est-ce qu'elles sont appelées à d'autres choses?
Ces seniors-là sont appelés à aider ces jeunes-là qui viennent d'entrer dans le marché du travail à améliorer leurs compétences sur le marché du travail. Ces seniors-là viennent leur apporter un appui professionnel dans leurs différentes tâches ou fonctions qu'ils auront à accomplir au sein de leurs entreprises.
Ce sera plus un partage d'expérience.
Un partage d'expérience.
Est-ce qu'il s'agira des seniors de tous les secteurs? Par exemple, un senior qui peut-être a été commerçant peut aussi entrer dans ce compendium?
Oui, bien sûr. Hein, le compendium est ouvert à tout le monde. À l'instar du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, le compendium des compétences des seniors vise à valoriser les compétences des seniors professionnels et retraités issus du secteur public et privé, résidant sur le territoire national ou de la diaspora. Donc vraiment, toutes les personnes qui ont vraiment une riche expérience dans leur domaine de compétences sont mises à contribution dans cette dynamique-là.
Alors, quelles sont les conditions à réunir pour intégrer le compendium?
Pour s'inscrire, il faut avoir une connexion Internet. Et il tape sur Google l'adresse, le lien du compendium des seniors, qui est www.compétences.net. Donc www.compétences.net. Voilà. Donc lorsqu'il arrive sur la page en question, et le senior va sur le menu inscription. Et il a le formulaire d'inscription qui se présente où il peut renseigner toutes les informations le concernant pour valider son inscription. Une fois son inscription validée, il a accès à son profil. Et à partir de son profil, il pourra accéder aux offres d'emploi disponibles sur le compendium et il pourra, en fonction de sa compétence, accéder à une offre d'emploi en termes de consultance ou de formation. Il pourra aussi recevoir des emails directement sur son mail.
Y a-t-il un âge limite pour participer à ça?
Il n'y a pas d'âge parce que quelqu'un qui est à 70 ans, qui peut donner encore sa voix, nous l'acceptons.
Merci Monsieur Yannick Niamke. Je rappelle que vous êtes chargé d'études au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale.
Merci à vous.
Niamke Yannick, chargé justement d'études au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, était l'invité de la rédaction de ce jour. Il répondait aux questions de Daniel Yesso, un entretien qui met un terme à notre édition, le rappel de l'essentiel. 36 milliards de francs CFA, c'est le budget du ministère d'État, ministère de la fonction publique, adopté à l'unanimité par les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale le 8 novembre dernier. Et puis à Madagascar, la présidente de l'Assemblée nationale a demandé hier jeudi la suspension du processus électoral à moins de 7 jours du premier tour de la présidentielle. Objectif, permettre un vrai dialogue et rechercher une solution acceptée de tous. Prochain rendez-vous de l'actualité sur Radio de la Paix, c'est à 8h.
La fréquence de la paix,